La petite scène que Marie a donnée avec les enfants m'a encore montré un peu la grâce que nous avons dans la salle là-bas à partager avec les enfants. Des questions qui viennent, des questions toutes simples mais profondes, des questions auxquelles on n'a pas toujours de réponse en réalité, mais des questions qui nous enseignent beaucoup. Ce matin, le message, l'enseignement que je veux donner est un enseignement que j'avais déjà partagé avec les enfants. Il est tiré du livre de Matthieu, le chapitre 13, les versets 1 à 11. Je vais le lire. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'était assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas de sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tombe parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain 100, un autre 60, un autre encore 30. Celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus répondit: parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Dans ce message, je me propose de parler dans un premier temps de ce que c'est qu'une foule. Après, je reviendrai très brièvement sur la forme d'expression que Jésus a choisi pour s'adresser à cette foule-là. Et enfin, nous allons nous intéresser au contenu de la parabole. C'est un passage qui s'adresse à toutes sortes de gens, non pas un passage qui peut être mangé à toutes les sauces, comme on peut le dire, mais un passage qui convient à toutes les sauces. Un passage qui se présente comme du sel, qui rentre un peu partout. Ce qui montre le côté intemporel et le côté divin de celui qui apportait ce message-là, c'est-à-dire Jésus. Quand Jésus était parmi nous, physiquement, sur cette terre, lors de ses missions, tantôt il enseignait sur les chemins, il enseignait sur la montagne, il allait dans les synagogues, et aujourd'hui, c'est à la mer. Toutes les occasions sont donc très bonnes pour apporter l'enseignement pour Jésus. Si c'était aujourd'hui, nous imaginons aisément que Jésus serait dans une église ou bien dans une grande salle de conférence avec une grande foule devant lui. Qu'est-ce qu'une foule? Qu'est-ce que cette foule-là? La foule vient du mot grec « oklos », ce qui signifie littéralement un ensemble de gens se trouvant à un tel endroit. Une foule comporte toutes sortes de gens. Elle n'est pas homogène. Dans plusieurs endroits de la Bible, des évangiles jusqu'à l'Apocalypse, on parle souvent de foule. On peut retenir les versets de Matthieu 4, verset 25. On en trouve dans Matthieu 5, verset 7. On ne va pas les lire. Dans Luc 3, verset 7, on traite la foule là-bas de race de vipères. On en trouve dans Acte 8, le verset 6, où la foule adoube Philippe. Après tous les miracles que Philippe a fait, Jésus a en réalité pitié des foules, parce qu'elles sont comme des brebis sans berger. Dans Matthieu 26, le verset 5, nous voyons l'exemple d'une foule, la même foule qui protégeait Jésus. Si on se rappelle, avant que Jésus ne soit arrêté, les sacrificateurs, les prêtres se sont réunis pour comploter son arrestation, pour le livrer à Ponce Pilate. Mais en même temps, ils avaient peur de la foule parce que cette foule-là protégeait Jésus. Ils ne voulaient pas que la foule se révolte, la foule fasse des manifestations au moment de la Pâque. Cette même foule, alors, qui venait juste d'être le protecteur de Jésus, témoigne contre Jésus devant Ponce Pilate. Ceci pour vous montrer le caractère imprévisible, le caractère changeant de ce que peut être une foule. La parabole de Jésus s'adresse donc à une foule comme ça, à un peuple. Cet ensemble de personnes bonnes ou moins bonnes, ces personnes lettrées ou illettrées, converties ou non. C'est donc l'illustration de la vérité spirituelle tirée de la vie courante de son époque qu'il prend pour leur expliquer. La parabole est d'abord pour faire connaître aux disciples les mystères du royaume de Dieu. Malgré son côté énigmatique, les paraboles sont un véritable trésor d'enseignement vivant et saisissant. La parabole, ensuite, est utilisée par Jésus pour éveiller l'intérêt des personnes venues pour l'écouter, seulement par curiosité. Jésus fut le plus grand des éducateurs et ses paraboles restent l'exemple des meilleurs moyens d'enseigner. Ces illustrations simples et frappantes devaient travailler l'esprit de beaucoup, les amenant éventuellement à trouver en Jésus la réponse à leurs questions et à leurs péchés. Ces paraboles que Jésus a données il y a plus de 2000 ans nous parlent encore aujourd'hui. Enfin, concernant la parabole, nous allons dire, Jésus les utilisait parce que ceux qui venaient l'écouter ne sont pas toujours des gens bien intentionnés. Il y avait des gens qui venaient juste pour poser des pièges. Il y avait souvent les pharisiens qui venaient pour entendre et aller rapporter aux principaux sacrificateurs ce qui pouvait être dit ou pas. La parabole peut être ainsi une forme d'expression codée que Jésus utilisait. Venant aux paraboles, nous dirons que le Seigneur prend l'image de l'agriculteur. Il parle de la semence et du semeur. La Bible ne l'indique pas, mais on peut aisément imaginer qu'il y avait dans cette foule des gens qui travaillaient la terre, ou du moins des gens qui ont leurs proches qui travaillaient la terre. Qui parmi nous ici ne se fait pas une image, une idée de ce que c'est qu'une semence ou ce qu'un semeur? La semence, c'est une graine. C'est ici la parole de Dieu. La semence ici, c'est la vérité biblique. La semence, pour nous, c'est Jésus. Cette petite graine qui semée en nous porte des fruits. Le semeur, c'est Jésus devant cette foule. C'est encore ses disciples, les semeurs. Aujourd'hui, le semeur, celui qui va semer cette parole qu'est Jésus, c'est bien toi, c'est moi. Dans le texte, au verset 4, en venant à la parabole proprement dite, nous venons de voir dans un premier temps ceux à qui Jésus s'adressait. Nous avons vu la forme d'expression, nous avons parlé de la forme d'expression, pourquoi il a utilisé cette forme d'expression. Et nous allons nous intéresser maintenant à la parabole elle-même. La parabole se décline en quatre parties. La première partie, nous la trouvons au verset 4, où les graines qui sont jetées, une partie tombe sur le bord du chemin. Le bord du chemin, qu'est-ce que c'est? C'est une personne. C'est un cœur. Ça peut être un chrétien ou non. Mais ce cœur-là représente les auditeurs négligents et insouciants. Ces auditeurs qui sont la proie facile pour Satan. Il est certain de nous dérober de la parole semée. Si nous ne prenons pas soin de la garder dans notre cœur. Il s'agit de celui qui est incapable de comprendre le message de la bonne nouvelle. C'est un cœur qui a à peine écouté le message, le diable le reprend aussitôt. On pourrait le représenter par cette image. C'est ce qu'on dit, ça entre par cette oreille et tout de suite, ça sort par celle-ci. Pour ce cœur, le message de la bonne nouvelle est une folie. Quand aujourd'hui, ils entendent parler de Jésus, ils se demandent si ça existe toujours. Pour eux, ça, Jésus, cette parole-là, c'était avant. Ceux qui croient encore sont des has-been, des gens dépassés. Ce type de terrain peut aussi se trouver parmi nous dans l'Église. On n'accepte pas tout simplement un passage de la Bible ou un message qui pourtant est biblique. Eh oui, notre Dieu, il ne change pas. Il reste le même hier qu'il était. Il est le même aujourd'hui et éternellement. Après ce terrain qui est celui qui n'accepte pas le message, celui à peine tombé, le diable l'a repris, comme de ces oiseaux dont la Bible nous parle. Nous allons passer à la deuxième catégorie de personnes, la deuxième catégorie de terrain que nous trouvons dans le verset 5 de Matthieu 13. Matthieu, au verset 13, le verset 5, nous dit: une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle se leva aussitôt parce que ne trouvant pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Ici, il s'agit des cœurs hypocrites. Ils affichent souvent un début de véritable conversion. Beaucoup sont heureux d'entendre une prédication, mais n'en tirent aucun réel profit. On leur parle de salut par la grâce, des privilèges, des croyances et du bonheur céleste. Cela ne produit aucun changement dans leur cœur. Nul besoin d'un sauveur ou de l'excellence de la sainteté. Ils professent rapidement une certaine assurance dénuée de réel fondement. Quand une lourde épreuve les atteint, aucune tentation les assaille, ils abandonnent leur profession de foi. C'est en fait ceux qui disent oui pour faire plaisir à quelqu'un ou qui font ce que les autres font. C'est des chrétiens d'un instant. Ils acceptent la parole devant les gens, mais en réalité, la décision ne vient pas du cœur. C'est ceux-là qui aiment les grandes campagnes d'évangélisation. À la fin d'un message, quand on demande de s'engager, quand on demande de recevoir Jésus, ils s'avancent rapidement devant: oui, j'accepte Jésus. Mais en réalité, ils n'ont rien compris. Ça peut aussi, comme dans le premier cas, exister parmi nous à l'Église. On entend un message, on prend une décision pour faire ceci ou cela, on s'engage à quelque chose, mais aussitôt le culte fini, on passe la porte, ça passe aux oubliettes. Après ces deux formes de terrain qui sont sans lendemain, nous allons passer à la troisième catégorie. Que nous décrit le verset 7? On nous dit: une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et les touffèrent. Les attirances du monde sont avec justesse comparées à des épines. Elles sont ici-bas avec le péché et sont le fruit de la malédiction. Mais un chrétien doit être bien protégé pour s'y attaquer. Les épines, on peut l'imaginer, quand on tombe dedans, on se fait beaucoup de mal. Il y a des chardes qui peuvent rentrer partout, qui peuvent s'infecter même après. Ces difficultés peuvent être la maladie. Ces épines peuvent être le chômage, les difficultés de la vie, la pauvreté, la misère. Ça peut être des difficultés financières. Ça peut être aussi des difficultés dans son foyer. Ça peut être les incompréhensions avec sa progéniture. ces difficultés qui sont plutôt néfastes pour le chrétien et pour toute personne d'ailleurs. À part celles-là, il y a aussi les attraits de la vie. Les pièges de la richesse. Si nous plaçons notre confiance en l'Éternel, en Jésus, on est protégé de tout ce qui nous entoure, de ce qui peut être la richesse, ce qui peut être la maladie. Ça existe, on ne le nie pas. Mais le sang de Jésus nous protège et nous donne la capacité, la force de pouvoir résister. Il y a, quand j'étais encore plus jeune, une chanson que j'aimais bien. Quand on pense à ce que peut être la vie de tous les jours, les difficultés ou les plaisirs ou je ne sais pas quoi d'autre, qui disait: rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Ce n'est ni les difficultés, ce n'est ni l'argent, ce n'est ni la maladie, ce n'est ni les choses positives, ni les choses négatives. Rien ne peut m'arracher de la main de Dieu. Nous pouvons lire ce passage de l'Ecclésiaste 1 qui nous dit: tout est vanité. Vanité des vanités, tout est vanité. Pour ce qui concerne les richesses et les envies que nous puissions avoir, écoutons ce que l'apôtre Paul dit à son fils spirituel Timothée. Dans Timothée 2, 22, fuis les passions de la jeunesse, recherche la droiture, recherche la justice, recherche la paix avec ceux qui, d'un cœur pur, invoquent le Seigneur. Enfin, nous allons parler du quatrième point, du quatrième cœur qu'on peut avoir, qui peut être dispos à écouter la parole. C'est la bonne terre. C'est la terre à laquelle nous devons tous aspirer. C'est la terre fertile. On reconnaît une plante à ses fruits. C'est en cela la véritable, c'est en cela que les véritables chrétiens se distinguent des hypocrites. Christ dit pas que ce bon sol ne, le Christ il ne dit pas que ce bon sol ne contient pas des épines, qu'il n'y a pas de pierre. La bonne terre comporte des épines. La bonne terre comporte des pierres. Sur la bonne terre que nous pouvons être ici, chrétiens convertis, il y aura des problèmes. Il y a des problèmes. Il y en aura encore, faut pas se tromper. Mais Jésus est là pour solutionner tout ceci. Pour terminer, nous allons rapidement parler des fruits qui poussent sur cette bonne terre. Galates 5, versets 23 à 20, 22 à 23, qui nous parle des fruits de l'esprit. Quand ce cœur-là, il est un cœur bon, un cœur disponible, un cœur qui accepte la parole de Dieu, comment on le reconnaît? C'est ce qui nous amène à voir les fruits de l'esprit. Il y a l'amour, il y a la joie, il y a la paix, il y a la patience, il y a la bienveillance, il y a la bonté, il y a la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ça, c'est Dieu qui les donne. C'est Dieu qui nous l'apporte. Et pour qu'il nous le donne et qu'il nous l'apporte, il faut y aspirer. Il faut avoir notre cœur il faut que notre terrain soit fertile. La parabole est une semence porteuse de fruits à condition de tomber sur la bonne terre. Cette bonne terre qui est notre cœur doit être préparée, doit être labourée pour que ce que Jésus nous apporte, la parole qui vient, puisse s'enraciner et porter les fruits dont nous venons de parler. Pour conclure, je vais reprendre juste un verset de Josué 1, verset 8, qui nous parle du livre de la loi. Je vais me permettre de, au lieu de dire le livre de la loi dans l'Ancien Testament, je vais parler de la Bible. Je vais parler de la parole de Dieu en le lisant. Que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche, de ton cœur. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras le succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu seras en bonne santé. C'est alors que tu seras en paix avec toi-même. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.